Dans un instant, le LEM, on écrit des cartes postales. Mes chers parents, c'est le nom du dernier projet de l'ethnologue photographe Benjamin van der Lick qui vient nous le présenter. En deuxième partie d'émission, le podcast Tout commence en Finistère, une enquête sur l'entrée des jeunes dans la vie adulte et la chronique Poser ça sur la table consacrée aux shanties.
LEM, l'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM d'images et de voyages, ou d'exil, ou de déplacement, ou de migration. Benjamin van der Lick, nous le connaissons bien sur Radio Évasion. Il vient nous présenter la nouvelle réalisation de l'association Yiriba, une association culturelle brestoise créée il y a quelques années par des passionnés de l'Afrique de l'Ouest pour valoriser les arts, la création musicale d'Afrique, des artistes, des musiciens, des danseurs. D'autres associations culturelles africaines du Finistère ou même d'ailleurs travaillent également avec Yiriba. Parmi les projets dont on a déjà parlé sur Radio Évasion, il y a eu l'exposition livre Jaurès Cosmopolite autour de la rue Jean Jaurès de Brest et ses commerces qu'on peut qualifier de cosmopolites, exotiques ou qui relèvent de l'entrepreneuriat ethnique. Cette fois, toujours avec Benjamin van der Lick, on s'intéresse à un nouveau projet, Mes chers parents, avec toujours de la photo, des histoires personnelles venues d'ailleurs jusqu'à Brest. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Alors juste avant de s'intéresser au nom du projet, on va juste écouter un petit extrait amusant.
Après de la maison, je vois de la brousse. Après de la brousse, je vois de la forêt. Après de la forêt, je vois de la mer. Après de la mer,
non, Jojo, ça va,
je vois
non,
de...
ça va.
Mais tes parages, ça va. Je voulais, mais je s'en va. Vous pouvez gagner l'enfara. Je s'en va. Je viens prier. Mais je parle, je s'en va. Voyez-vous là, mais je s'en va.
Alors voilà, c'est Jason Ayato, c'est un humoriste ivoirien plutôt qu'un chanteur, hein, on s'en rend bien compte. Alors Benjamin, pourquoi est-ce qu'on a choisi cet extrait?
Bonjour, difficile de commencer
oui,
en sérieux
vrai.
Avec cet extrait. Cet extrait, en fait, c'est une chanson, une reprise d'une chanson d'un célèbre chanteur français. On en pense ce qu'on en veut, mais il a écrit cette chanson qui s'appelait « Je vole ».
C'est Michel Sardou.
Donc c'est Michel Sardou, le grand Michel. Et donc, elle a été reprise par cet humoriste. Et cette chanson commence par « Mes chers parents, je vole ». Et donc là, c'est « Mes chers parents, je s'en va ». Donc, c'est devenu un hymne au départ pour cet humoriste. Du côté de Michel Sardou, il y avait le fait de partir de chez soi, mais peut-être pas avec cette dimension migratoire, évidemment. Et ce qui est intéressant avec ce terme « mes chers parents », c'est que justement, quand on va écrire une carte postale à ses parents, il peut y avoir cette dimension assez digne aussi. On s'adresse à ses parents, avec un certain respect. On commence par « mes chers parents » et on va raconter sa vie.
Et alors, on va la raconter. Il y a encore une dimension photographique, je l'ai dit, dans ce nouveau projet, en carte postale, qu'on fait soi-même. Enfin, quand ça se passe? Alors, c'est quoi l'idée?
Oui, c'est ça. L'idée pour ce projet, l'origine... le départ, c'est une suite, c'est un peu ça. Pendant plus d'un an, en arpentant la rue Jean Jaurès, différents endroits de Brest, avec toutes ces personnes qui faisaient leurs courses dans ces commerces cosmopolites, on rencontre pas mal de personnes. On présente l'exposition et c'est à partir du moment où les photos sont présentées que l'échange, la confiance se fait réellement. Et qu'on se dit, il y a des choses aussi à mener de manière plus loin, parce que la confiance est établie et eux peuvent plus facilement aussi ouvrir des portes, avoir plus envie de partager aussi leur vécu, leurs émotions, d'une certaine manière.
Et leur histoire familiale.
Et leurs histoires aussi familiales qui arrivent par bribes. Et on se dit, mais il y a des choses à faire. On voit que du côté des communications, maintenant, tout le monde est avec ses téléphones portables. Et ces questions de mémoire qui avant étaient très papier, maintenant, ça devient électronique. Et surtout, donc... On sait très bien que l'électronique, des fois, ça plante, ça brûle.
On ne sait pas ce qui va en rester.
Et on ne sait pas ce qui va en rester. Et souvent, ce qu'on constate aussi, c'est que, au final, c'est les archives que pouvaient représenter les cartes postales qu'on envoyait, qui réussissent à se conserver au pays sans électricité, sans serveur pendant des années. Et bien maintenant, donc il y a le téléphone. Et quand le téléphone est mort, souvent, on n'arrive pas à transférer les données. Et toute cette histoire est perdue. Donc, il y avait aussi cette volonté aussi de réinscrire ces immigrants dans une histoire migratoire plus ancienne où avant, on faisait de la communication épistolaire et on avait aussi connaissance de cette histoire. Donc, il y a aussi évidemment la dimension chercheur qui s'intéresse justement aux archives familiales et qu'est-ce que l'histoire de l'immigration ? L'histoire de l'immigration, ce n'est pas uniquement ce qu'on va trouver à la préfecture avec les dossiers de demande d'asile. C'est aussi justement ce que vont se raconter les personnes entre elles, qui seraient des choses intimes, personnelles. Mais pour autant, c'est comme ça qu'on réussit à vraiment saisir l'humanité de l'immigration.
Et ce sont aussi des territoires qui se parlent, si on veut. Enfin, là, c'est en gros, c'est Brest, la ville de Brest. C'est ça, ça ne va pas sortir de Brest pour ce qui est des cartes postales.
On va sortir un tout petit peu de la ville de Brest, mais au final, on va interroger des personnes qui vivent à Brest, qui ont des Bretons venus d'ailleurs, des Brestois venus d'ailleurs, mais venus d'ailleurs au-delà de la France métropolitaine. Donc, des fois, ils peuvent être complètement français, mais nés en Polynésie, dans les Antilles... En Réunion,
oui, c'est pas
possible.
Seulement l'Afrique, même si c'est Yéréba, c'est plus seulement l'Afrique.
Ouais. C'est ça. Mmh. Et on est au-delà de l'Afrique, on est au-delà de la France métropolitaine, parce qu'il est intéressant aussi de regarder, d'avoir le regard des personnes qui vivent ici et qui ont justement une richesse visuelle plus large, qui ont grandi dans un univers. Soit un univers éducatif, déjà, comment on va nous apprendre la géographie de l'endroit où on vit. Donc ça, c'est un formatage qui a lieu pour toute personne et c'est conditionné par l'endroit où on va grandir, on va faire notre éducation. Et au-delà de ceci, c'est aussi quel est l'univers dans lequel on grandit et on peut constater qu'on n'a pas cette même perception de la France si on grandit en France métropolitaine ou si on grandit dans les Antilles. Il y a quand même une distinction qui se fait. Et eux ont cette distinction qui leur est redonnée quand ils arrivent ici. On leur dit, mais vous n'êtes pas complètement français, vous êtes d'où ? S'ils répondent, je suis de France, on va leur dire, mais de France ? C'est quelle France ? Et donc, on a ces choses-là qui apparaissent en permanence. Donc, mm-hmm. Pour moi, c'était intéressant de redonner, justement, ou de donner tout simplement la parole à des personnes, souvent, qu'on n'entend pas pour parler, justement, du patrimoine, d'une certaine manière. Et la carte postale, ben, justement, on est sur la dimension patrimoniale. Beaucoup de clubs, de cartes postales anciennes peuvent exister. Internet regorge de ce type d'informations assez passionnantes.
Ouais, les collectionneurs de cartes postales. Quoi. Enfin...
Et les cartes postales aussi ont évolué. Il y a aussi cette dimension-là.
Oui, bien sûr. Il y a eu des modes dans la carte postale comme dans tant d'autres univers. Et alors là, les ateliers qui ont déjà commencé, hein, parce qu'il y a déjà des productions, puisque pendant le festival Puits d'Images, notamment, on a pu en voir. En quoi consiste la production de cartes postales ? Enfin, comment ça se passe ?
Eh bien, la production de cartes postales, c'était s'appuyer sur quatre endroits dans Brest, hein, avec des histoires migratoires assez différentes qui peuvent être derrière. Inviter des habitants de Brest venus d'ailleurs à réaliser la carte postale idéale qu'ils veulent ou qu'ils voudraient envoyer à un proche de leur famille. Donc on a fait ça sur la rue Jean Jaurès avec justement toutes ces personnes rencontrées depuis plus d'un an. Donc je les ai sollicitées une fois, deux fois, trois fois. Des fois ça prend du premier coup, des fois on met six mois pour réussir à avoir... un rendez-vous qui va être complètement maintenu où il n'y aura pas de lapin. Il y a aussi ces dimensions-là parce qu'au final, c'est moi qui suis demandeur et eux ne sont demandeurs de rien. Au final, on est sur quelque chose qui est, oui, peut-être une marotte d'ethnologue, mais au final, ils vont être contents une fois que le résultat est fait.
Et oui, comme la dernière fois, ouais. Enfin, comme dans tous les autres projets, en fait.
Ouais. Et donc, on va avoir la rue Jean Jaurès, on va avoir Pontanezen, parce qu'on prévoit de faire une exposition avec tout ça après. Donc, regardez au niveau du tissu associatif qui existe autour de la médiathèque Europe à Pontanezen. On va avoir sur la rive droite, à Saint-Pierre, le GPAS, donc groupe pédagogique d'animation sociale à Kérourien, avec qui on a vraiment on prend plaisir à travailler ensemble au niveau de la pédagogie sociale, la démarche participative, on est en grande adéquation. Et il y avait aussi un autre lieu que j'avais envie d'associer, qui était l'hôtel des gens de mer sur le port de commerce. Actuellement, ce n'est plus un hôtel pour les touristes, mais c'est un lieu où vont être hébergés les jeunes mineurs étrangers isolés donc qui arrivent en France, ainsi que des femmes isolées avec enfants en bas âge qui se retrouvent pris en charge par le conseil départemental. Et ces personnes-là, pour moi, ils sont assez intéressants. Parce qu'il y a un an, surtout les jeunes, ils pouvaient catalyser une certaine crainte, frayeur de certains Brestois frileux envers l'immigration, qui voyaient ces personnes comme la gente qui va investir Brest et qui va complètement...
Les envahisseurs.
C'est ça, qui vont complètement la changer, parce que tous les midis, ils devaient aller manger au foyer jeunes travailleurs Michelet. Donc, ils montaient par groupe dans la ville, tous les jours, de manière répétitive. Et
ils devenaient très visibles, du coup.
Et donc, ils devenaient visibles, récurrents, et ils symbolisaient justement l'arrivée dans le centre de ces hordes de migrants, d'une certaine manière. Si on extrapole un peu. Donc, c'était intéressant de dire... Faisons aussi ce travail avec vous et prenez la parole, on regarde comment on peut faire des choses.
Donc, ça se passe comment le processus ? Alors, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Il y a d'abord un entretien avec eux, on choisit un endroit dans Brest, enfin, comment ça se...
Et donc, pour ça, la manière de procéder, c'est on leur parle de cartes postales, je leur montre des vieilles cartes postales anciennes de Brest, parce que l'idée, c'est aussi de s'inscrire dans une esthétique carte postale du début du XXe siècle. Mais on est sur des personnes qui n'ont pas forcément envie d'envoyer une carte postale en noir et blanc à leur famille. Donc par contre, on dit, on va travailler en couleur. Et donc, dites-nous quel serait le lieu idéal que vous aimez dans Brest et dans lequel vous aimeriez vous représenter. C'est-à-dire, il y a cette question de se représenter sur la carte postale qui est importante. Parce
qu'il y a un humain, quoi.
C'est ouais, ça. Au début du XXe siècle, on remarquait qu'il y avait toujours des humains sur la carte postale. C'est après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, 60, 70... La ville va se désertifier, on va avoir une photographie d'architecture sur les cartes postales qui apparaît. Et si on a des représentations humaines, en Bretagne, souvent, on va avoir une bigoudaine, un marin, un pêcheur,
des figures typiques
bankable. Il y a ces dimensions-là.
C'est ça, ouais.
Et donc là, c'est dire, et si vous aussi, vous faisiez partie de cette histoire, et donc faire partie de cette histoire, c'est réussir aussi à être présent sur ces cartes. Donc, regardez comment on essaye de s'inspirer de cette esthétique début XXe siècle pour vous être dessus. Et aussi, se dire, on le fait aussi dans la légende, parce qu'à chaque fois, sur la carte postale, on va faire la légende sur le recto. Pas sur le verso, mais sur le recto. Et donc, on peut avoir, par exemple, là j'en ai une devant moi, on a le relais Kerhuon, la pointe Sainte-Barbe. C'est marqué en français, mais à côté, ça va être marqué en persan.
La langue de la personne
donc,
en
la
question.
La langue de la personne, pour qu'une fois la carte postale envoyée, ses parents puissent réussir aussi à lire la légende. Parce que tout le monde ne parle pas forcément le français et ne lit pas forcément l'alphabet français. Donc on va avoir comme ça quasiment une vingtaine de langues différentes qui vont apparaître sur les cartes postales réalisées.
Donc la personne, l'entretien ethnologique, entre guillemets, il a lieu avant, pendant, après, comment ça se passe enfin...
Donc c'est ça, on choisit de faire un entretien ethnologique en même temps qu'on va faire la carte postale, la photographie qui fera la carte postale. C'est un processus en plusieurs temps. Je demande à la personne qui est d'accord pour faire la carte postale de choisir une personne qui réalisera la photographie. L'idéal, c'est que ce ne soit pas moi qui fasse la photographie, et c'est quasiment toujours réalisé. Il choisit une personne, un ami proche, en qui il a confiance, ou il peut y avoir aussi une connivence. Et donc, cette personne fait la photographie. Moi, je fais l'assistant. J'arrive avec mon trépied, mon appareil photo, mon déclencheur souple. On peut dire un peu à l'ancienne, mais de manière si légère. On n'est pas sur la photographie comme on faisait au début du XXe siècle. Mmh. Mais on travaille quand même avec du film négatif, ce qui permet aussi d'établir une relation dans le temps. En même temps qu'on fait les photographies, on fait les entretiens où ils nous racontent sur place pourquoi cet endroit-là, c'est un endroit qu'ils affectionnent. On se rend compte qu'il y a, plein de raisons qui vont amener à choisir un endroit, mais on va peut-être
on va y revenir après.
Oui,
ouais, tout à fait.
En plus de ça, à la fin, on est amené à se revoir parce qu'il faudra il faudra développer les films, les numériser et montrer les photographies et qu'eux choisissent aussi la photographie qui leur correspond le plus.
De la carte postale, d'accord.
Sachant qu'eux vont choisir la photographie où ils vont émettre une suggestion, mais de la même manière, on travaille aussi avec une commissaire d'exposition, Emmanuelle Asquette, pour choisir les photographies, ainsi qu'avec une graphiste, Nathalie Billan, qui aide aussi à choisir les photographies et à mettre en forme justement les cartes.
Parce que c'est un peu retravaillé. Enfin, ces photos du début du XXe, il y avait une sorte de grain un peu. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'on le retrouve complètement dans ces photos, bien qu'elles soient en couleur. Et c'est vrai que ça fait vraiment photo ancienne. Il y a eu déjà une quarantaine de photographies, enfin de cartes postales produites.
C'est ça.
Donc autant de personnes, je suppose.
À peu près, ouais, c'est ça.
Personne ne s'est désisté en cours de route.
les désistements ont eu lieu beaucoup lieu avant. Il y a eu, on va dire, deux exceptions. Une personne donc, qui, au final, avait le moral dans les chaussettes et n'avait plus envie d'exposer sa photographie. Donc, il a eu sa carte postale pour lui. Et une autre personne qui m'a dit « je suis d'accord, en discutant avec mon mari, je suis d'accord pour que la photographie qui devienne carte postale et soit exposée pour l'exposition, puisse être donnée. Mais par contre, je refuse que vous vendiez ma carte postale. »
Ah oui, d'accord, parce qu'elles sont vendues, oui, c'est vraiment.
Parce que l'idée, ouais. Oui, c'est ça, c'est que ce soit une vraie carte postale.
Ouais, bien sûr, tout à fait. Et ces personnes, alors, qu'est-ce qu'elles ont choisi comme lieu? Alors évidemment, il y en a 40, alors ça va être difficile. En plus, il va falloir nous les montrer à la radio.
C'est ça, ils vont choisir des lieux extrêmement différents. Donc, on va avoir parmi les lieux. On peut avoir les lieux dits emblématiques de la ville de Brest. Donc, on peut trouver l'hôtel de ville, la gare de Brest, le port militaire, le château. Le port militaire, le château, j'y suis allé avec une famille géorgienne. Et c'est une fois la photographie réalisée, on s'est rendu compte qu'il existe quasiment 10 cartes postales au moins avec cette vue, mais réalisée au début du XXe siècle, mais également des fois des dessins qui datent du XIXe siècle et qui étaient transformés en cartes postales. Donc on a ces vues-là qui sont assez typiques et qui se reproduisent en fonction des générations. On va avoir également, là devant moi, j'ai la rue de Pontagnou avec la prison de Pontagnou qui est derrière et une béninoise qui marche dans la rue. On va avoir la rue de Siam avec son architecture qui n'est pas sans nous rappeler des fois l'architecture russe et marquée en russe rue de Siam Brest.
C'est vrai.
On n'est peut-être pas forcément en Bretagne des fois.
Ah ouais, tout
mais,
à fait.
Mais c'est aussi ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois on se projette dans des ambiances qui peuvent être aussi rassurantes pour certains.
C'est ça, voilà.
On prend plaisir à être sur cette rue de Siam très, très minérale, tout comme d'autres personnes vont se faire plaisir à être en été sur la rampe du Merle Blanc, petite rue assez étroite qui peut rappeler aussi bien des ambiances de Grèce ou des petites villes iraniennes.
On pouvait choisir sa saison alors pour faire la photo.
Ouais, on essayait de le faire sans pluie de préférence, mais ça n'a pas empêché aussi d'avoir de la pluie sur les photos parce que Brest aussi c'est ça.
Et ben oui, quand même.
Et on est plutôt content du résultat. Donc on a comme ça, oui, aussi bien, en effet, ces vues dites emblématiques de Brest, mais aussi certains vont nous ouvrir sur leur jardin secret, d'une certaine manière, les endroits où ils vont aller seuls ou juste avec une amie, vraiment pour contempler, pour se vider la tête, penser à autre chose et juste se faire plaisir. Donc on a comme ça, donc Mirwais, un Afghan qui m'a parlé depuis 6 mois du jardin des explorateurs.
Ouais, qui est très belle cette photo, c'est vrai qu'on se croirait pas du tout à Brest. Hein. Enfin,
c'est ça.
Franchement, non, c'est celle du conservateur botanique que j'ai sous les yeux.
Mais ce qui est intéressant, c'est que des fois, deux personnes peuvent choisir le même lieu.
Ah oui.
Et le discours, par contre, qui est apposé sur le lieu est complètement différent.
Alors justement, c'est quoi les motivations des gens à choisir les lieux? Enfin, j'imagine qu'elles sont extrêmement multiples et variées.
Et donc, oui, pour ces lieux, on va avoir justement ce côté, le Brest brillant, la fierté de vivre à Brest, une belle ville dynamique. Enfin,
belle ville, ils disent alors. Ouais, enfin, ouais. C'est une belle ville pour
c'est
eux.
C'est ça, le fait de se mettre devant la gare de Brest, devant l'hôtel de ville. C'est une fierté d'être dans une superbe ville avec des beaux bâtiments. Donc, il y a aussi ça. En même temps, ils vont aussi nous raconter d'autres histoires en se disant « Mais oui, la place de la liberté, c'est incroyable parce qu'on se promène ici. Il y a toutes les nationalités qui sont aussi sur la place et ça ne pose aucun souci. On se sent brestois avec ma couleur de peau en étant ici. Je n'ai pas l'impression de faire tâche. » Il y a aussi ces choses-là aussi qui peuvent être dites au final dans les entretiens. Donc c'est ça qui est intéressant avec toute cette matière. On pourra réussir à dérouler un autre fil, intellectualiser, vulgariser toute cette matière. Une autre personne sur la gare de Brest aussi, c'est aussi bien l'endroit par lequel on arrive, mais c'est l'endroit par lequel on va travailler presque tous les jours si on n'a pas de voiture. On va prendre son blablacar à partir de la gare de Brest, on va prendre le bus pour aller dans des interventions à tous les coins du département, et occasionnellement, on va prendre le train. Le train, souvent, c'est un peu cher, mais on sait qu'on peut toujours le prendre à partir d'ici. Donc, il y a cette dimension-là, et ils vont dire... Et en plus, quand on demande à l'intérieur de la gare à un monsieur il est possible de monter sur la tour, le beffroi de la gare, eh bien, c'est possible, et on a une superbe vue de Brest.
Ils peuvent nous jouer les guides touristiques.
Donc, on se rend compte que certaines personnes ont justement pleinement approprié la ville de Brest et connaissent une multitude de petites histoires que le Kidam brestois n'a peut-être pas forcément creusé.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un côté un peu pas mal du pays, mais par exemple, est-ce qu'ils peuvent choisir des endroits parce que ça leur rappellerait leur pays d'origine ou leur lieu d'origine en tout cas ?
Eh ben oui, c'est ça. Ça va être enfin aussi bien. Donc on parlait tout à l'heure de la rampe du Merle Blanc. Donc ça rappelait ces petites ruelles qu'on pouvait avoir dans les vieilles villes iraniennes. Qui sont en train de disparaître. Donc il y a ces choses-là, mais la vue aussi sur la rade de Brest aussi, ça rappelle pour certains justement ce lien avec le littoral assez fort. Claudia, comme ça, une brésilienne, donc arrivée ici comme réfugiée, si, donc le fait de ne plus pouvoir vivre avec la nouvelle présidence au Brésil l'a amenée à vouloir venir s'installer ici parce que son mari est français. Elle va dire « Mais ici, c'est extraordinaire, il y a un intérêt à enjoliver le littoral, planter des arbres, faire qu'on s'y sente bien, que ce soit beau. Cet aménagement, c'est quelque chose qu'on n'a pas au Brésil. »
Non, c'est vrai. C'est souvent
et en même temps, donc, elle va se promener sur le pont de recouvrance en disant « Mais c'est... ces architectures comme ça, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être touriste dans ma ville. » et donc, il y a toutes ces expressions, tous ces ressentis qui sont assez intéressants. Et donc, en effet, le fait de se dire, oui, avant, j'habitais au bord de la mer, mais elle n'était pas aussi belle que celle que je vois ici en Bretagne.
Il y aura d'autres développements, il y aura notamment un aspect sonore quand on pourra, c'est ça
Ça, c'est le souhait. C'est, il y a le souhait après les cartes postales, donc là, qui ont, pour 40 d'entre elles ont été remises. Les 10 dernières vont être remises ces prochains jours. Donc, remises avec une enveloppe déjà timbrée, affranchie, une feuille de papier à l'intérieur de façon à en écrire un peu plus qu'une seule carte postale aussi, et mettre un petit peu de complexité, mais ne pas avoir aussi son mot à dire ou son regard. Donc, une fois que la carte postale est donnée avec l'enveloppe, là, il reste le plus dur à faire presque, à chaque participant, c'est y mettre ses tripes et raconter, je l'espère, leur vie, des histoires sur leur vie à Brest.
Mmh, sur ce que ça a changé dans leur famille par ailleurs. Quoi.
C'est ouais. Ça.
Mais et donc, ils pourront enregistrer aussi ce qu'ils pensent. Quoi.
C'est ça. Après, l'idée, c'est se dire qu'on peut réussir à s'appuyer aussi sur ces premiers enregistrements qui sont de l'enregistrement plus de...
Plus
de notre transcription. Mais ça nous permet d'identifier quelques personnes en se disant, bon, là, il peut y avoir quand même quelques personnes qui nous ont dit des choses assez incroyables, qui ont des timbres de voix différentes. Et avec ça, je pense qu'on a possibilité de faire des petites pastilles sonores pour réussir à agrémenter l'exposition. Donc, à voir quelle forme l'exposition va prendre actuellement. Maintenant, c'est toujours compliqué de voir comment on fait des expositions, comment on met des choses sur ses oreilles.
Pour l'instant, c'est sûr.
Mais ça demande à être imaginatif et on trouvera toujours des choses à
faire. En ligne, on peut au moins les proposer en ligne. C'est alors ça. Là, il y a eu plus d'images. On a pu voir une quarantaine de cartes postales. Là, il y a une exposition qui commence tout juste.
Exactement.
Dans les médiathèques, plusieurs médiathèques
donc,
de Brest.
Donc, c'est une exposition réalisée par le service patrimoine de la médiathèque des Capucins. À Brest. Donc, eux, ils viennent de numériser et de mettre à disposition sur leur site l'intégralité de leur fonds de cartes postales anciennes. Ça s'appelle Iroise, ce projet. Et dans ce cadre-là, ils ont souhaité justement faire un petit événement et nous associer aussi pour regarder comment on pouvait construire cette histoire ensemble entre cartes postales anciennes, cartes postales nouvelles, archives avec témoignages de marins étant partis à l'autre bout du monde qui ont envoyé des cartes à leurs parents justement avec une personne qui envoyait toujours des cartes postales qui commençaient par mes chers parents. On n'était pas au courant avant de faire l'exposition,
projet.
Donc
on peut l'avoir en vrai cette exposition,
et donc, cette
physiquement. D'accord.
On peut l'avoir en vrai tout en haut de la médiathèque à l'espace patrimoine.
Bon, de toute façon, il y aura beaucoup d'autres développements. Je crois qu'il faudra revenir, pour nous en parler parce qu'il y aura même un livre.
C'est ça. Là, l'idée, ce serait de réaliser un livre, mais déjà réaliser une exposition. Et pareil pour l'exposition, c'est pas la réaliser moi dans mon coin, mais continuer à faire ce travail ensemble, choisir les photos ensemble. On a à peu près 600 photos, 40 heures d'entretien. Donc, beaucoup de choses qui ont été dites et montrées. Et avec ça, on peut réussir à faire un autre récit qui ne sera pas une exposition carte postale qui serait un peu trop indigeste, mais réussir avec toutes ces photos à avoir justement un autre regard sur Brest. Et ce serait justement Brest la Blanche en couleur.
D'accord.
Donc il y a cette dimension-là derrière avec justement les lieux emblématiques et les jardins intimes de chacun et qui nous permettent aussi de rencontrer ce que serait aussi cette vision de Brest, un Brest approprié aussi bien par des Brestois venus d'ailleurs que les Brestois ici depuis des générations.
Bon, on y reviendra. Merci beaucoup. À la
Merci
prochaine,
bien.
Benjamin Vanderlic.